Où vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous, nous allons reprendre la chronique sur des actualités récentes. La semaine dernière, c'était sur le centre-ville de Toulouse et une digression sur les centres-villes et la politique urbaine d'une manière générale dans les villes européennes et je pense même au-delà. Donc, aujourd'hui, c'était une information parue sur les réseaux, une chose assez banale, c'était l'inauguration d'une école élémentaire à Toulouse. Alors, encore une fois, il s'agit de politique locale, mais bien sûr, le propos est élargi d'une manière plus générale. Donc, il s'agit de la manière dont les choses sont présentées. Et dans le cas présent, on voyait le maire de Toulouse, et c'était publié par une conseillère municipale qui faisait l'inauguration. Et on voyait une image de l'école en question, et il n'y avait pas mentionné le nom de l'architecte ou des architectes. Alors, j'ai fait une remarque écrite donc sur ce point en disant « Mais quel est l'architecte ? Vous mettez toujours le coupeur de ruban qui est le politique, mais enfin c'est assez important et nécessaire, et c'est la loi de mettre l'architecte, surtout quand il y a la photo. » Et alors, on m'a répondu d'une manière assez innocente, parce que je ne veux pas mettre en cause la conseillère municipale en question qui ne fait que suivre les habitudes qui sont celles non seulement de la ville de Toulouse, mais en plus de cela, d'à peu près de toutes les communes, mais aussi du département, de la région. Donc, loin de moi de faire une polémique qui serait politique. Elle s'adresse d'une manière, on peut dire, générique et générale. Donc, la réponse est tout à fait intéressante. Parce qu'elle me dit, mais non, détrompez-vous monsieur, nous avons mentionné l'architecte en même temps que dans le discours de remerciement, en même temps que les services et les entreprises. Alors voilà, c'est-à-dire qu'on met sur un plan d'égalité, on pourrait dire aussi les fournisseurs de briques, de plaques au plâtre et de robinets, tant qu'on y est. C'est-à-dire qu'on fait comme au cinéma, quand on a à la fin du générique, il y a très rapidement, on passe un défilé de personnes qui ont contribué, les perchemans, les costumiers, on a prêté les costumes, on a loué des voitures, enfin il y a toute une liste qui ont contribué au film, ce qui est très bien, mais ça passe très rapidement, donc juste les gens ont le temps de se reconnaître, mais on sait que on a en premier le réalisateur, ce qu'on appelait avant metteur en scène, qui est l'auteur du film et qui, lui, est à part et dans la manière dont il est présenté. Et il est, sur un plan légal, l'auteur et il possède les droits. Alors, dans le cas de l'architecte, et il s'agit d'une obligation légale qui non seulement tombe sous le sens, parce que l'architecte passe une grande partie de sa vie à faire des projets et qui sont assez longs, et c'est quelque chose qui est une propriété artistique, donc il y a l'obligation pour faire quand on fait état d'un projet, de le mentionner, et quand il y a une photographie, la loi oblige les droits d'auteur, même la loi oblige l'autorisation de l'architecte qui est le seul possesseur des droits, et d'avoir son autorisation d'une part, évidemment, de le mentionner. Alors évidemment, aujourd'hui, on peut dire l'équipe de conception d'une manière très large qui fait en sorte que cette originalité du travail fondamental de l'auteur d'un projet qui est reconnu, comme je vous disais, dans le cinéma, mais qui est reconnu aussi en musique. On ne confond pas le machiniste avec le compositeur ou l'interprète. Donc, on voit quelle est la dérive, et il faut noter que d'une manière générale, les politiques ne s'oublient pas de se mettre en photo, et on a tous ces bulletins municipaux, départementaux, régionaux, avec la photographie de l'élu principal et des élus en train d'inaugurer des bâtiments, et d'une manière générale, on met les photos et on ne mentionne pas les auteurs, les architectes. Donc ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé dans le temps, où effectivement on ne confondait pas l'imprimeur avec l'écrivain, et il y avait la reconnaissance de la propriété artistique. Donc c'est une dérive qui en dit beaucoup sur notre profession, et aussi, je dirais, la profession s'est prêtée à l'équipe de conception et une sorte de dissolution de l'auteur avec les personnalités annexes qui sont ou à la fois la maîtrise d'ouvrage, à la fois l'administration et aussi tout ce qui peut être comme les experts techniciens et aussi les entreprises qui font cela. Donc, ce que je fais, c'est un rappel à la loi, et ce ne devrait pas être à moi le faire, mais ce devrait être l'organisme qui est l'Ordre des architectes, qui est chargé justement de faire rappeler à l'Ordre de respecter la loi. Mais justement, ce qui est grave, c'est que tout cela n'est pas fait. Alors, c'est un... On peut dire qu'on a depuis quelques années, en France notamment, une inflation, et notamment sur le plan de la technostructure, une inflation de personnes. Ce qui fait que cette inflation de personnel avec ce qu'on appelle le millefeuille administratif, où on a par exemple, puisque je vous parlais d'une école élémentaire, on a aujourd'hui les écoles qui sont les écoles maternelles et élémentaires qui sont sous la responsabilité des mairies, des municipalités ou des communautés de communes, mais ça revient au même. Puis on a les collèges et les lycées qui sont sous la responsabilité les collèges qui sont sous la responsabilité du département, les lycées qui sont sous la responsabilité des régions, et les universités également sous la responsabilité des régions. Donc on multiplie par 3 ou des fois 4 avec les communautés de communes ou les métropoles, les services techniques qui font l'encadrement, et on a une gabegie totale de personnel. Et ceci est d'autant plus paradoxal, c'est que on a par exemple sur le plan scolaire, on construit bien moins que ce que l'on a construit il y a un demi-siècle, où on a fait l'armature de collèges et de lycées qui n'existaient pas d'une manière aussi systématique, et aussi les universités, on peut dire qu'il y a une trentaine d'années où il y a eu les constructions universitaires les plus importantes, et dues justement à une nouvelle population, et qu'aujourd'hui, pour des raisons démographiques, on construit beaucoup moins. Mais par contre, l'inflation des services techniques qui fait qu'aujourd'hui, on a un problème d'une fonction publique énorme, et cette fonction publique, elle est essentiellement due à ce millefeuille administratif où on a multiplié des gens, et il faut le dire, qui me paraissent totalement inutiles, puisqu'il faut-il rappeler qu'il y a encore pas très très longtemps, on peut dire au XXe siècle, enfin dans l'après-guerre, où on a construit énormément de bâtiments, les services étaient concentrés à l'Académie. Il y avait un service constructeur avec quelques personnes, par exemple, sur l'Académie de Toulouse. Ça a duré, on peut dire, jusque quasiment dans les années 80. Et on est arrivé à construire d'une manière aussi importante avec une poignée de personnes. Donc, ce qui est paradoxal, il n'y a rien qui s'est passé entre-temps, si ce n'est qu'on a une inflation de gens, bien évidemment, que je pense totalement inutiles. Alors, le phénomène n'est pas lié uniquement au bâtiment d'enseignement comme je vous parle aujourd'hui, mais d'une manière plus général, pour prendre le secteur du bâtiment, par exemple dans le logement, les millions de logements qui ont été construits après la guerre ont été construits avec la Caisse des dépôts. C'était une poignée de personnes qui étaient arrivées à construire, et contrairement à ce que l'on dit, ça a été construit plutôt bien et rapidement. Et aujourd'hui, la production des offices HLM, par exemple, pour ne citer que, elle est poussive par rapport au nombre de personnel. Donc on est dans une inflation de personnel partout et une diminution du nombre de constructions. Bon, chercher l'erreur et chercher les problèmes le problème que le Premier ministre qui va parler cet après-midi, où il doit faire des économies et trouver de l'argent. Donc voilà, donc on est sur un problème français et cette inflation qui est non seulement coûteuse en termes de deniers publics, mais également elle produit une lenteur, une immobilisation, un alourdissement des procédures qui fait qu'un projet aujourd'hui met beaucoup plus de temps, et c'est absolument paradoxal avec, au contraire, les progrès techniques et la mécanisation, mais la gestation d'un projet est beaucoup plus longue. Aujourd'hui, les opérations d'urbanisme qui ont été réalisés il y a quelques années, et aujourd'hui, ça met une décennie, et ce qui est complètement aberrant et évidemment contre-productif au niveau économique, et qui ne correspond absolument pas aux possibilités techniques de l'époque. J'avais cité dans une émission précédente, mais je vais le rappeler, l'aménagement de Toulouse, mais quand je parle de Toulouse, c'est parce que nous sommes à Radio Occitanie, on pourrait élargir le sujet à peu près à toutes les villes françaises, et l'aménagement des centres-villes, et le centre-ville dont je vous parlais la semaine dernière. Et on a par exemple la rue piétonne de la rue de Metz qui va mettre 3 ans ou 4 ans pour être simplement passée en piéton, uniquement un changement de sol. Mais c'est tout, il n'y a rien de plus et ça prend des années. Alors évidemment dans l'imaginaire collectif, On s'imagine qu'avant, il fallait des siècles pour construire les cathédrales, pour construire les bâtiments. Mais tout cela est faux. La vie était beaucoup plus courte. On construisait des châteaux forts pour ses propres défenses. Ce n'était, on ne construisait pas pour deux générations après. Et on arrivait à construire justement des édifices énormes dans des temps qui étaient étonnamment court si on le compare aujourd'hui. Alors faut-il rappeler par exemple pour que le percement de la rue de Metz et son prolongement de la place Esquirol, il a été fait dans un tissu médiéval, c'est-à-dire qu'on a démoli les maisons existantes, on a reconstruit l'actuelle rue de Metz, c'est-à-dire à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et tout cela a été fait dans une période de 2 à 3 ans, avec aussi le réaménagement entier de la place Esquirol et aussi tout l'angle du musée des Augustins, du musée des Augustins qui a été construit en moderne à partir du cloître existant. Donc on a c'est tout cet ensemble architectural qui a été construit en une période très très courte, et aujourd'hui il peut seulement changer le sol, on met plus de temps, et là on est dans cette aberration qui est effectivement, il faut le rappeler, non seulement produit des désagréments pour les populations, mais aussi coûte très cher, parce que, comme l'on sait, le temps c'est de l'argent. Bon, on va marquer une pause musicale et on va continuer l'émission ensuite sur le sujet des architectes.
Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Alors, comme je vous avais promis, je vais vous parler de la profession d'architecte et aujourd'hui, on peut dire, de l'actualité de la profession d'architecte. Actuellement, se tient ce mois d'octobre qui arrive, le congrès des architectes. Alors, c'est un événement, je crois, qui est annuel et qui, aujourd'hui, est sur un thème tout à fait surprenant, enfin, surprenant pour moi, mais apparemment pas pour tout le monde, qui est architecte engagé. Alors, je vais vous préciser la manière dont écrit engagé, c'est engagé.es, c'est-à-dire on est en écriture exclusive pour bien marquer que la profession est aussi une profession féminine. Voilà ce qui est une réalité, mais je crois qu'on aurait pu en rester à architecte engagé sans l'utilisation de la langue exclusive. Mais évidemment, ce n'est pas mon sujet, n'est pas la langue inclusive, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce thème engagé ? Alors d'abord, ça voudrait dire que les architectes ne l'étaient pas, ou que, pour reprendre le mot de Claude Nougaro, que les architectes étaient dégagés. Lui se prétendait justement avec ironie artiste dégagé, parce que justement il refusait d'être l'artiste engagé avec les listes de chanteurs qui signent des pétitions, et il avait une indépendance d'esprit, et on doit le rendre hommage à cette indépendance d'esprit. Alors, qu'en est-il des architectes ? Eh bien, en fait, si je reprends par exemple le texte de ce qui est mentionné dans l'exposé de ce congrès, c'est les participants partageront leurs expériences, réaffirmeront leur engagement. Alors là, c'est souligné, ou c'est plutôt c'est décrit en rouge, pour une pratique architecturale tournée vers l'avenir et ancrée dans la société. Bon, alors tout ça, ça me paraît d'abord enfoncer les portes ouvertes, parce que tourner vers l'avenir, bon, ben, on construit pour la société, on construit pour le temps présent, et effectivement, on essaie de se projeter dans l'avenir, dans la mesure où les bâtiments doivent durer et ne pas être des biodégradables et fondre dans les mois qui viennent après leur construction. Et ancré dans la société, ben je crois que ce serait même la définition du métier. Donc tout ça me paraît inutile, mais au-delà de l'ironie que je mets dans mon propos, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel a été le phénomène et le changement qui a fait, on peut dire, non pas cette prise de conscience, mais ce changement de vocabulaire. Alors, moi, je le daterai d'une période qui maintenant est assez ancienne, qui est mai 68, où on a eu une pseudo-révolution qui a fait la prise de pouvoir d'une génération qui est la mienne sur la génération précédente. Donc, j'en avais parlé pour les centres-villes en disant que cette génération a voulu s'inventer une théorie qui me paraît aujourd'hui totalement fausse, mais je crois qu'elle me le paraissait à l'époque aussi. Et l'engagement des architectes dans la politique, ça a remplacé, à l'époque, l'école des Beaux-Arts disait pas de politique à l'atelier, ce qui voulait dire qu'on pouvait en faire à l'extérieur, mais que l'architecture en elle-même n'était pas politique. C'était la politique, c'était la responsabilité du politique, et que l'architecte était appliqué les politiques des autres. Et alors là, il y a un changement total où l'architecte prétend évidemment que tout est politique, que l'architecture est un acte politique, et de ce fait, ce n'est pas uniquement un changement de vocabulaire, ça veut dire qu'il veut prendre à la place d'une politique et parler à sa place. Alors, on a effectivement le double mouvement, à la fois le politique qui recule par rapport à ses prérogatives anciennes, qui étaient justement de définir la ville, de définir les politiques urbaines et architecturales, le choix des architectes, comment on choisit son chef de cabinet, son personnel, on pouvait choisir les architectes et les mettre, alors évidemment, les mettre en concurrence, c'était une chose, mais la responsabilité appartenait aux politiques, qui pouvaient être élargies aux conseillers municipaux, etc. Mais cette génération de 68, comme je vous disais, en fait, ils ont pris la place du politique et aussi enlevé aux politiques le choix de l'architecte avec les concours. Alors, les concours anonymes, on ne sait pas qui vote et on a d'une certaine manière enlevé le pouvoir de choix aux politiques, et pourtant le politique, c'est lui qui est en responsabilité, qui est en responsabilité des politiques urbaines, des bâtiments qu'il construit, et évidemment de l'aspect des bâtiments aussi, puisque on marque une ville, on dit il y a l'architecture des rois, il y a l'architecture de la Troisième République, enfin le rôle du politique est celui-là justement, et surtout quand il s'agit des politiques municipales. Donc on a le politique à qui on enlève avec les concours, les services techniques, les experts, les architectes de conseil qui ne conseillent pas mais qui ont le pouvoir de décision. Et là aussi, on est sur une imposture. Les architectes de conseil, c'est eux qui décident. Et on dit aux élus, nous avons décidé et vous êtes obligés de suivre parce que nous sommes les sachants et vous ne savez pas. Alors, vous pourriez me dire que c'est une extension du pouvoir des architectes. Et bien justement, c'est une régression. Parce que, d'une part, la responsabilité, il n'y a pas évidemment de la légitimité qui va être celle de la démocratie, qui est donnée par les élections. Mais en prenant la place du politique, l'architecte et l'architecte français, en plus, comme toujours, qui va à la chasse perd sa place, et il y a un déplacement de pouvoir en prenant le pouvoir de politique, comme je vous disais, bien, il perd le pouvoir qui était le sien, et qui était même sa tâche principale, qui est celle de mener des chantiers, dans le temps, de mener les chantiers donc dans les délais et aussi dans les budgets. Et cette responsabilité, qui est une responsabilité professionnelle, ne veut pas dire que l'architecte est quelqu'un qui est hors de la cité et hors des problèmes. Mais la politique, et quand je parle des architectes engagés aujourd'hui dans le discours de la profession, l'architecte, il est engagé dans la vie personnelle, s'il veut, ou il peut, ce qui était mon cas, militer dans un parti politique, ceci n'ayant rien à voir avec le métier, qui l'architecture n'a pas, y a pas d'architecture de gauche, de droite, et donc il y a l'architecture faite pour les gens, et puis l'architecture, elle est faite pour les responsables, pour la démocratie, et dans une distribution de rôles. Donc ce n'est pas aux architectes à prendre cela. Alors, pour revenir sur cette perte de pouvoir, eh bien oui, ce faisant, ce qui s'est passé, c'est que on a eu, et on en revient au propos de la première partie de l'émission, où justement cette administration qui n'existait pas est devenue, on peut dire, c'est le mammouth dont parlait Claude Allègre, qu'il fallait dégraisser dans les services de l'éducation nationale, mais évidemment, c'est partout. Mais également, on a une armada d'experts. Alors évidemment, ce sont des bureaux de contrôle, des bureaux d'études, il y a des thermiciens, il y a des architectes d'intérieur, il y a des économistes. Et aujourd'hui, donc, on ne fait qu'augmenter de plus en plus le nombre et on les impose en amont parce que la technostructure, évidemment, se régale d'avoir des choses compliquées parce qu'il faut qu'elle justifie son rôle. Donc, on est sur une inflation de complexité et l'architecte va être, c'était le début de l'émission, ben il va disparaître dans cette cohorte de gens où il est noyé et cette élu municipal, tout innocemment, elle dit ce que je vous disais en début d'émission, mais nous avons parlé de l'architecte dans le remerciement de son discours avec les services techniques, l'équipe de conception, les ingénieurs et aussi les entreprises. Voilà, donc c'est ce qui montre bien que quand on veut prendre le pouvoir des autres d'une manière illégitime, ce qui est le cas de l'architecte engagé, il a perdu sa position. Et aujourd'hui, l'architecte, pour les gens, c'est quelqu'un qui fait les dessins des bâtiments. Et puis, il y a une armada là, de techniciens, d'ingénieurs qui les construit. Alors, on me l'a dit souvent, l'architecte n'est que le concepteur. Mais non, il est le constructeur et en responsabilité légale. C'est lui qui dirige le chantier, qui en a la responsabilité. S'il y a des accidents sur les chantiers, il en est responsable, et il en est responsable dans la manière dont il doit livrer le bâtiment au maître d'ouvrage, et il est responsable aussi sur une période de 10 ans et même au-delà, s'il y a évidemment des malfaçons ou des problèmes de bâtiment. Et là, évidemment, l'équipe de conception et les équipes techniques et les services, il n'y a plus personne. Et l'architecte se retrouve dans le cas qui est jamais souhaitable pour lui, c'est qu'il se retrouve devant des juges ou des experts, c'est lui qui est toujours responsable. Voilà, donc c'est une histoire qui n'est pas très amusante, mais il était important de replacer le contexte local avec un contexte général pour le rôle de l'architecte et des élus. Bien, je vous souhaite une bonne semaine. C'était Ouvrirons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Je remercie Grégor qui était à la technique. Et je vous dis à la semaine prochaine.